Salut les rebelles intelligents. Donc il fait pas très beau en ce moment à Londres, donc je me suis dit que pour une fois, eh bien, je vais tourner cette vidéo en intérieur. Donc qu'est-ce que m'a apporté le fait de me lancer le défi de lire 52 livres exceptionnels en 52 semaines? Pour la petite histoire, c'est avec ce défi que j'ai démarré mon blog « Des livres pour changer de vie » en octobre 2008. Et c'est grâce à ce blog que j'ai connu le succès sur Internet et que je suis devenu blogueur pro. Je me suis lancé dans ce défi à l'époque pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais découvert la liste des livres du personnel MBA. Donc aujourd'hui, le personnel MBA, c'est une liste de 99 livres dans 26 catégories différentes. À l'époque, il y en avait un peu moins, peut-être 75, quelque chose comme ça. Et j'avais commencé à lire quelques-uns de ces livres et je les avais tous trouvés exceptionnels. Et comme j'avais été convaincu sur l'importance de savoir lire régulièrement des bons livres, parce que j'ai eu deux livres qui en 15 jours ont complètement changé la façon dont je pouvais voir un métier que je pratiquais depuis 8 ans, à savoir le fait d'être entrepreneur. Et ces deux livres, c'est « La semaine de 4 heures » et « The He-Myth » de Michael Gerber. Je me suis dit « Waouh, si en 15 jours, il y a deux bouquins qui changent complètement ma façon de voir un métier que je pratique depuis 8 ans, il y a peut-être d'autres livres aussi exceptionnels qui peuvent m'apporter énormément dans d'autres domaines. » C'est comme ça que je suis tombé sur la liste du personnel MBA. Quand j'ai lu ces livres du personnel MBA, je me suis dit « Waouh, ils sont vraiment exceptionnels, il faut que j'en lise un maximum. » Mais je me connais, je connais ma psychologie, je sais que souvent quand je me lance dans des projets comme ça, eh bien au début je suis tout feu tout flamme et puis après rapidement quand je me rends compte qu'il faut bosser un peu quand même et que je dois dépenser beaucoup d'énergie pour avoir des résultats, l'enthousiasme retombe et puis typiquement j'abandonne. Donc je me suis dit que ce serait un bon moyen de hacker ma psychologie que de clamer en fait cet objectif au monde entier, en tout cas à qui voulait bien l'entendre, et en créant comme ça une pression sociale positive. Parce que je suis humain, j'aime pas avoir l'air bête devant les autres. Donc quand je dis à tout le monde tu vas voir, je vais réussir à faire ça, et que les gens ils me demandent régulièrement t'en es où dans ce projet, t'en es où dans ce projet, j'ai pas envie de leur dire écoute, j'ai complètement procrastiné parce qu'à la place en fait j'ai regardé la télé, tu vois. Voilà. Si vous aussi, vous avez un objectif ambitieux qui vous motive, mais que vous vous dites « Ouais, c'est bien, là, je suis motivé, mais qu'est-ce que ça va être dans 3 mois, dans 6 mois ?» Ça peut vraiment être quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous aussi hacker votre psychologie. Une autre raison, c'est que j'avais cette idée du blog « Des livres pour changer de vie » et que j'avais comme objectif, un des objectifs, c'était d'en faire un véritable business. Et je me suis dit que ça allait attirer davantage l'attention si je me lançais dans un défi comme ça, et ça a fonctionné. J'ai démarré, on va dire, c'était fin septembre 2008, et dès octobre 2008, j'ai vu quelques articles dans des blogs qui aujourd'hui d'ailleurs sont plus forcément très connus ou qui n'ont pas un trafic énorme par rapport à l'audience que j'ai aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient des mastodontes par rapport à ce que moi j'avais. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est une autre leçon finalement, avant même de rentrer dans les détails intrinsèques, de qu'est-ce que ça m'a apporté intrinsèquement, c'est que déjà rien que le fait de me lancer dans ce défi-là, ça a aussi attiré l'attention des autres. Donc je vous pose la question aussi, si vous avez besoin, et je pense qu'on en a tous besoin à un moment, que davantage de gens s'intéressent à votre projet, au message que vous avez à partager, quel type de défi ambitieux vous pouvez vous lancer qui va attirer l'attention des autres acteurs du milieu et peut-être même des médias et qui va du coup vous faire de la publicité gratuite. Ça, c'est vraiment aussi un bon moyen de hacker le système entre guillemets. En plus, ces blogs, quand ils ont parlé de mon défi, ils ont mis des liens vers mon blog, ce qui a non seulement amené du trafic directement, mais c'est aussi des backlinks de très bonne qualité qui a fait que mon blog a tout de suite été bien référencé sur Google. Maintenant, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce que ça m'a apporté concrètement de lire tous ces bouquins en un an. Alors déjà, peut-être ça sera un scoop pour certains, même si je l'ai partagé sur le blog quand j'ai fait le bilan de ce projet, eh bien, je n'ai pas réussi à lire ces 52 livres. J'en ai lu seulement 32. Et sur ces 32 livres, il y en a 28 seulement qui venaient du personnel MBA. J'en ai lu aussi 4 autres qui n'étaient pas dans le personnel MBA, mais que j'avais envie de lire, notamment « L'art de la méditation » de Matthieu Ricard. On peut le voir comme un échec finalement, ce résultat. Mais justement, je vais vous partager à quel point cet échec est absolument pas grave et que moi, j'aimerais bien avoir des échecs comme ça, que tous mes échecs ressemblent à cet échec-là. Mon défi, c'était pas de lire seulement les livres, c'était de les lire et d'en faire une chronique par semaine sur mon blog. Et c'est là, en fait, où j'ai sous-estimé le temps que ça prenait. Parce que ce que je ne savais pas à l'époque, quand je me suis lancé ce défi, c'est que les chroniques, ça prend 2 fois plus de temps à faire, en tout cas la manière dont moi je fais les chroniques, que de lire le bouquin. C'est-à-dire qu'un livre qui va me prendre 3 heures, je vais le mettre 6 heures à écrire la chronique. Donc forcément, ça prend énormément de temps et si je n'avais pas écrit de chronique, j'aurais sans doute pu réussir mon défi sans trop de problèmes. Quand j'ai partagé ce résultat lors du bilan des 1 an, il n'y a absolument personne, j'ai eu aucun commentaire de personne qui m'en voulait par rapport à ça. Tout le monde m'a dit, écoute Olivier, franchement, c'est déjà énorme et puis tu nous as aussi apporté énormément de valeur en faisant ces résumés. Donc, c'est aussi une troisième leçon que j'ai tirée de ce défi, c'est que on peut se fixer des objectifs très ambitieux et que ce n'est pas grave si on n'arrive pas à les atteindre parce que justement, ils sont ambitieux. Parce que le simple fait de faire la moitié d'un objectif ambitieux, ça peut déjà être une extraordinaire réussite. Et il y a très peu de personnes qui vont vous en vouloir par rapport à ça. Et qu'un objectif ambitieux, justement, ça peut vous motiver davantage à vous bouger les fesses, à faire quelque chose concrètement. Et aussi, ça peut aussi motiver toute une communauté autour de vous, peut-être à qu'elle fasse aussi davantage de choses et puis aussi pour vous suivre tout simplement. Et ensuite, au-delà de ça, eh bien évidemment, il y a la valeur que m'ont apporté tous ces livres que j'ai lus. Et je peux vous dire qu'une énorme partie de ces bouquins étaient vraiment top. Josh Kaufman, le créateur du Personal MBA, a vraiment fait un extraordinaire travail de sélection. Et du coup, je vais vous dire un petit peu ce que m'apportent encore aujourd'hui ces livres. Donc, j'ai lu un livre, le tout premier, c'était 10 Days to Faster Reading, donc un livre sur l'art de lire plus rapidement. Honnêtement, ce livre m'a pas apporté énormément parce que je suis déjà un lecteur rapide à la base. Ensuite, j'ai lu 45 méthodes efficaces pour recruter avec discernement. Ça, ce livre, je m'en suis servi immédiatement parce qu'à l'époque, dans ma première entreprise, j'avais besoin de recruter quelqu'un et ça m'a aidé à faire le bon choix. Ça m'avait vraiment aidé à l'époque. Et le deuxième livre, en fait, c'était Strength Finders, qui est un livre qui m'a permis de découvrir mes forces. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce livre est vraiment exceptionnel. En fait, c'est pas vraiment un livre, hein. C'est un bouquin, mais dedans, il y a surtout un test psychologique que vous passez. Et moi, je trouve que ce test est vraiment pertinent. Il vous donne vos 5 forces principales et surtout, il vous montre comment elles se combinent entre elles. Et c'est là, et c'est encore quelque chose dont je me sers aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai une conscience plus précise finalement de mes forces. Et ça, c'est quelque chose qui vous sert dans tous les domaines de votre vie. Pourquoi ? Parce que moi, je sais par exemple que mes forces sont, en gros, je suis excellent pour apprendre des nouveaux concepts. Je suis excellent pour voir des correspondances que la plupart des gens ne verront pas ou voir qui n'ont jamais été découvertes encore. Je suis très bon pour ça. Je suis très bon pour retenir. Et je suis très bon pour finalement formuler des idées à partir de mes connaissances. Et du coup, quand j'ai découvert ces forces, je me suis dit « Waouh, c'est génial !» parce que justement, ce défi dans lequel je me suis lancé, c'est aligné complètement avec ces forces-là. Quand je me lance dans un projet, parfois je me demande comment je peux changer ce projet ou choisir un projet qui va faire en sorte que j'utilise mes forces au mieux, tout simplement. C'est là aussi que j'ai découvert quelque chose sur moi-même d'intéressant, c'est que je suis quelqu'un qui aime tellement apprendre qu'à la limite, l'apprentissage peut parfois se suffire à lui-même. J'ai du plaisir à apprendre des choses même inutiles. Et ça, du coup, en ayant davantage conscience de ça, j'essaie de moins tomber dans ce travers-là et de plus apprendre des choses utilement. Après, ça m'arrive encore de lire des bouquins sur des trucs qui vont jamais me servir parce que ça m'intéresse et je le fais de manière totalement assumée. Mais j'essaie de mieux diriger mes forces, un petit peu comme un pratiquant d'un art martial qui apprend davantage à utiliser ses énergies, son énergie, ses gestes, etc. pour aller là où il veut ou même un sportif tout simplement. Donc, quand je veux lire pour le plaisir ou apprendre des choses pour le plaisir sans aucune stratégie derrière, je le fais, mais je le fais plus consciemment. Donc, c'est aussi un livre que je vous recommande fortement. Personal Development for Smart People de Steve Palvina, un excellent, excellent livre de développement personnel. Honnêtement, je ne l'ai pas plus appliqué que ça, mais il donne vraiment un framework très, très intéressant dans ce livre que je trouve très intéressant intellectuellement et quand même qui m'influence à des degrés assez subtils, mais quand même au quotidien. Ensuite, j'ai lu Lead the Field, qui est un excellent livre de développement personnel. Clairement, pendant plusieurs années, ce livre a été, comme je disais, que c'était un phare en moi, un phare qui me guide dans l'obscurité. Il donne vraiment des principes qui sont universels et qui aident à prendre certaines bonnes décisions. Et encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai vraiment intégrées dans mon quotidien, comme son point de vue très intéressant et qui diffère du point de vue des bouddhistes d'ailleurs, sur le fait que le bonheur, c'est pas d'atteindre un objectif, c'est d'être en route vers un objectif. Et que c'est aussi le but du développement personnel, c'est d'être en permanence en train de s'améliorer et que ça, soi-même, c'est un plaisir en tant que tel. Et ça, voilà, c'est intéressant, c'est un des principes qui aujourd'hui est un de mes principes fondateurs et je pense pas que je l'avais avant de lire ce bouquin. Donc c'est très intéressant. Ensuite, il y a le livre Getting Things Done, s'organiser pour réussir. Donc voilà, une méthode de productivité hein, dont je vous ai parlé récemment. Voilà, c'est une usine à gaz. Clairement, je n'utilise pas complètement. De toute façon, il n'y a personne qui l'utilise complètement. Mais j'ai intégré des parties de ce système avec Zen to Done, avec Master Your Deno pour faire mon propre système. Donc encore aujourd'hui, je l'utilise. Ensuite, il y a le livre The Creative Habit, donc comment devenir créatif. Très honnêtement, ce livre ne me laisse pas des souvenirs incroyables. Je me rappelle juste d'un passage qui m'a marqué, dont je me sers parfois. C'est que l'auteur, c'est une chorégraphe à Broadway, à New York. En fait, elle explique que parfois, pour être créatif, il faut changer la position de son corps. C'est-à-dire que il faut, je sais pas, se mettre dans des positions différentes. Peut-être, elle parle aussi de changer de lieu. Enfin, souvent, quand on veut être plus créatif, on va se focaliser sur l'intellect, alors que le corps aussi a une influence sur l'intellect et il faut pas le négliger. Elle se recroqueville, par exemple, ou elle va se mettre dans une position où, au contraire, elle va s'ouvrir au monde et ça va pas déclencher les mêmes idées. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai quand même retenu quelque chose finalement de ce bouquin. Et ça rejoint aussi cette vidéo que je vous avais fait sur la science qui a prouvé assez récemment que le fait d'adopter certaines positions, par exemple des positions où on va avoir une assurance, comme quand on est comme ça, par exemple, pendant quelques minutes avant d'aller à un entretien d'embauche, par exemple, va permettre justement de gagner en assurance et d'avoir davantage de chances de convaincre les gens. Ensuite, il y a The Unwritten Law of Business. Donc, les lois non écrites du business, c'est une collection de lois qui sont assez pertinentes, mais très honnêtement, je ne me rappelle pas de la plupart. Il y en a une dont je me rappelle maintenant, c'est de toujours avoir une parole impeccable au travail. Donc, en gros, pas d'insultes, évidemment, toujours être respectueux. Bon, moi, c'est un de mes principes de base. C'était pas forcément le cas avant. Alors, j'ai jamais insulté mes employés, mais ça pouvait m'arriver de râler ou d'être un peu trop rude. Clairement, là, ça ne m'arrive plus. Alors, j'ai pas d'employé, mais j'ai des prestataires. Voilà, je pense pas que c'est ça qui m'a influencé. C'est plutôt comment se faire des amis. Vous voyez, c'est intéressant aussi de voir que dans ces livres, il y a aussi des livres qui m'ont pas tant influencé que ça, tout simplement. Ensuite, il y a un livre qui, encore aujourd'hui, façonne ma manière de voir les choses. C'est The Path of Least Resistance. Donc, c'est le chemin de moindre résistance, apprendre à devenir la force créative de votre propre vie. Ce livre est génial, c'est incroyable. Il dit la plupart des gens, quand ils veulent réussir à atteindre des objectifs dans leur vie, ils se focalisent sur des tactiques au quotidien. Et il dit le gros problème, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur la structure de leur vie. Et c'est absolument génial ce point de vue-là. Parce qu'en fait, il dit voilà, si par exemple, si vous voulez atteindre un objectif et que vous ne changez pas la structure de votre vie, vous êtes là, et vous voulez aller là-bas et vous avez un énorme élastique qui est attaché à ce mur-là, à ma gauche, à votre droite, et que vous voulez aller là-bas. Et à chaque fois, et vous pouvez être super discipliné, mettre énormément d'efforts, etc., et essayer de courir jusqu'au mur en face. Si vous avez un élastique qui vous retient, bah, vous allez donner tout ce que vous avez et puis à un moment, l'élastique qui va être plus fort que vous, il va vous ramener en arrière. Et il dit c'est important de prendre conscience de l'élastique et de savoir le couper ou le changer. Si par exemple, vous voulez devenir entrepreneur, c'est bien et vous avez des tas de choses qui vont vous aider à faire ça, mais il faut aussi changer la structure de votre vie. Si vous ne côtoyez que des employés par exemple, eh bien c'est un élastique qui va vous empêcher d'aller en avant. Prenez conscience de ces élastiques qui font partie intégrante de votre vie et essayez de les changer. Si vous voulez être entrepreneur, il faut que vous côtoyez pas que des employés. C'est aussi important de côtoyer des entrepreneurs. Ça va vous permettre de faire en sorte que l'élastique soit moins résistant, voire qu'il ne vous retienne plus du tout. Pareil, si vous voulez, par exemple, si vous êtes timide et que vous voulez vaincre cette timidité, vous pouvez utiliser tout l'exercice que vous voulez. Si après, votre vie, c'est que vous vivez dans une petite chambre dans une banlieue où il n'y a rien à côté de vous et que vous passez l'essentiel de vos soirées sur votre ordinateur et que finalement, vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous ne faites pas beaucoup d'activités, bah, c'est pareil, ça va être un élastique qui est créé par la structure de votre vie qui va vous empêcher ou vous freiner énormément dans le fait d'accomplir vos objectifs. Donc, c'est un point de vue très intéressant dont on ne parle pas assez. Mais voilà, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez changer dans la structure de votre vie pour avoir davantage de résultats, des résultats que vous voulez obtenir. Donc, très, très intéressant livre. Ensuite, il y a l'efficacité objectif numéro 1 de 4. Très, très bon livre de Peter Drucker. En fait, il recommande Peter Drucker de passer de temps en temps une semaine ou au moins une journée et de se poser régulièrement, toutes les demi-heures, on peut mettre un rappel dans son agenda en se posant cette question, pourquoi je fais ça Est-ce que c'est vraiment nécessaire? D'essayer d'identifier les choses qu'on peut éliminer ou déléguer ou automatiser. Et ça, c'est vraiment un exercice extrêmement efficace que je vous recommande. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, il faudrait que je le refasse. Ensuite, il y a Cut to the Chase, c'est un livre sur l'art d'aller à l'essentiel. Enfin, c'est aller à l'essentiel, très honnêtement, je ne m'en rappelle plus. Je sais qu'en gros, il recommande d'écrire des emails courts et tout ça. Aujourd'hui, j'écris des emails très courts, y compris quand j'envoie des mails à ma liste ou que j'envoie des mails aux gens. Je pense que c'est en partie influencé par ça. Ensuite, il y a le livre Beat Literacy. Donc, en gros, c'est comment utiliser efficacement les outils informatiques. Ce que je retiens essentiellement de ça, un truc tout bête, hein, c'est qu'il dit, voilà, il y a des nouveaux usages avec les outils numériques qui permettent de changer les habitudes. Et il dit, par exemple, quand vous prenez une photo avec un smartphone ou un appareil photo numérique, vous pouvez prendre 10 photos, on s'en fout. Après, vous sélectionnez la meilleure et vous supprimez les autres. C'est fini le temps de la pellicule où on devait prendre une photo, sinon ça coûtait cher. Si vous prenez 10 photos d'affilée, il y en a une qui sera meilleure que les autres. Et du coup, c'est une manière simple et efficace d'utiliser ces outils-là. Ensuite, The Simplicity Survival Handbook, le livre de la simplicité. Aucun souvenir de ce livre. Alors là, aucun souvenir. Results Without Authority. J'ai détesté ce livre quand j'ai lu parce qu'en fait, ça correspondait pas à ma situation quand j'ai lu. C'est un livre sur en gros comment manager des teams, des équipes dans des grandes entreprises. Donc, aucun intérêt pour moi. Ensuite, Making Things Happen. Pareil, même chose, j'avais pas aimé ce bouquin parce que c'est pour les grosses boîtes. Donc voilà, L'art de méditation de Matthew Ricard, très intéressant encore aujourd'hui. Ça me sert pour ma méditation. Comment se faire des amis, c'est... J'utilise pas autant les concepts que je voudrais, mais clairement, ça a beaucoup changé ma manière d'être. Avant, j'étais beaucoup plus cassant et tout ça. J'ai toujours ce côté où je suis très franc et je dis vraiment les choses, mais ça a été adouci quand même par ce bouquin. Deep Survival, très intéressant livre sur comment survivre dans des milieux hostiles ou quand on a des accidents. Régulièrement, enfin, je me suis mis mon podcast dans mon smartphone et j'écoutais ce podcast parfois dans l'avion qui m'emmenait dans des destinations. Aujourd'hui, je le fais plus, mais j'ai quand même intégré pas mal de concepts de base. Ce qui fait que si je me retrouve dans une situation, par exemple, je me retrouve dans un crash d'avion et je survis ou que j'ai un accident en montagne, enfin, quelque chose arrive, je pense que j'aurais de meilleurs réflexes que si j'avais pas lu ce bouquin. Ça veut pas dire que je vais me rappeler de tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, si malgré cet accident, j'ai quand même accès à Internet via mon smartphone, je sais que je pourrais aller voir et choper des bons et me rafraîchir la mémoire. Il dit, les alpinistes, ils ont plus d'accidents quand ils reviennent du sommet de la montagne que quand ils viennent. Pourquoi? Parce qu'ils font une grave erreur, la plupart. C'est que quand ils arrivent au sommet de la montagne, ils ont l'impression physique et parfois intellectuelle qu'ils ont fini leur voyage, qu'ils ont accompli ce pourquoi ils ont fait. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que ils sont arrivés au sommet, c'est bien, champagne, mais il y a le chemin du retour à faire et que le chemin du retour, il est tout aussi dangereux que le chemin de l'aller. Et il donne des exemples d'accidents qui ont lieu sur le chemin du retour justement parce que, entre autres, la tension s'était relâchée. Donc, très, très intéressant. Et c'est une analyse, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, qui ont l'impression que quand leur livre est terminé, ils ont fini leur travail alors qu'ils sont juste arrivés au sommet de la montagne. Maintenant, il y a encore la moitié du chemin à faire. Pareil, si vous créez votre boîte, vous avez créé votre boîte après peut-être un an de travail, je sais pas. Champagne, génial. Vous pouvez faire la fête. Le lendemain matin, vous êtes au bureau, vous essayez de trouver des clients. Parce que si vous faites pas ça, dans 6 mois, vous avez plus d'entreprise. Ces idées qui collent. Pff, incroyable livre. Alors, il y a eu aussi une autre édition française avec le nom Ces idées de génie. Livre extrêmement qui m'influence encore énormément sur en fait les facteurs qui font que du contenu soit apprécié et partagé. J'ai utilisé ce tableau notamment pour l'écriture de mon bouquin. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et d'ailleurs, je parle aussi dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, très, très bon livre. Ensuite, Sources of Power. Donc, c'est un livre qui m'avait beaucoup impressionné intellectuellement quand j'ai lu. Je me rappelle de cette sensation. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire exactement ce que j'en ai retenu. En fait, voilà, ça, c'est un exemple de bouquin qui est impressionnant intellectuellement, mais qui, du coup, au niveau pratique, apporte pas grand-chose. En tout cas, j'ai pas su en tirer quelque chose parce que je me rappelle rien de ce que ça a pu m'apporter. Conversation cruciale. Quel livre extraordinaire. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que ce livre, en gros, il dit, voilà, dans la vie, on a 1% de conversations, peut-être moins, qui peuvent complètement changer notre vie, qui peuvent décider d'un destin plutôt qu'un autre, qui peuvent décider qu'on soit avec une personne en tant que conjoint plutôt qu'une autre. Enfin, c'est assez impressionnant. Et c'est un livre qui donne une méthodologie extrêmement efficace et claire pour gérer ce type de conversation cruciale, justement. J'ai utilisé plein de fois, y compris pour des discussions de couple qui peuvent être très, très difficiles. J'ai utilisé plein de fois et je peux vous le dire, ça marche. Donc, je vous recommande fortement sa lecture. Influence et manipulation, on présente plus ce livre. Je vous ai fait une vidéo là-dessus qui résume de manière illustrée ce livre. J'en parle aussi beaucoup dans Tout le monde n'a plus la chance de rater ses études. Livre qui m'a énormément influencé et que j'utilise encore aujourd'hui. Making it all work, je me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Bon, un exemple de livre qui m'a pas marqué. Présentation zen, c'est un livre qui m'influence encore aujourd'hui. Je prends pas beaucoup de temps de faire des présentations. Alors, c'est un livre qui donne une méthodologie pour faire des belles présentations PowerPoint qui impactent. Donc ça, c'est intéressant. Alors, j'utilise pas plus que ça, mais quand même, ça m'influence quand je fais mes PowerPoint. Et les vidéos sur justement le résumé illustré de influence et manipulation, on utilise en fait la personne à qui je demande d'illustrer ces vidéos, elle utilise cette méthode présentation zen. Ensuite, un livre qui s'appelle Real World Seduction de Swing Cat. Donc ça, c'est un livre sur la séduction que je trouve intéressant. C'était un sujet qui m'intéressait pas mal à l'époque, qui m'intéresse encore aujourd'hui. C'est très intéressant de voir un petit peu au niveau de la psychologie humaine et de la sociologie et tout ça, puis aussi des choses qui fonctionnent. Le monde de la séduction, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec le marketing, la vente et ce genre de choses. Donc, c'est un livre aussi intéressant. Ensuite, Getting Everything You Can Out of Have You Got, le meilleur livre de marketing que j'ai jamais lu. Extraordinaire, je vous recommande fortement, j'en parle dans Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. J'ai plus appris en lisant ce bouquin qu'en faisant 6 mois de cours de marketing en cours du soir au CNAM. Tous les marketeurs sont des menteurs. Très bon livre de Seth Godin sur l'art du storytelling. 3D Negotiation, alors c'est un livre sur la négociation, j'en suis servi un peu mais pas tant que ça très honnêtement. Ce que j'en retiens surtout, c'est que si vous avez une négociation qui est importante à faire pour votre business ou pour votre vie, vous faites une carte de la négociation, c'est-à-dire vous mettez les différents participants, s'il y en a plusieurs, même s'il y en a deux, vous mettez vous deux et vous mettez un petit peu toutes les influences, les objectifs de chacun et tout ça, ça vous permet d'y voir plus clair. Ensuite, il y a The Ultimate Sales Machine qui a été d'ailleurs traduit récemment en français sous le nom de La Machine Infernale à Vendre, quelque chose comme ça, ou L'Ultime Machine à Vendre. J'ai fait la préface en français. Très, très bon bouquin sur l'art d'automatiser ses ventes et notamment avec une très bonne méthode pour embaucher des superstars. Indispensable de Joe Calloway. Je sais que c'est un livre sur l'art de faire de son entreprise un truc top, mais honnêtement, je m'en rappelle plus. Spin Selling de Neil Rackham, excellent livre. J'utilise encore la méthodologie Spin Selling aujourd'hui. C'est la seule méthode à ma connaissance de vente vraiment en direct, mais qu'on peut aussi adapter au web, qui a été testée de manière scientifique et c'est assez édifiant. J'ai dévolu toute une partie de Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études à ce livre. Et ensuite, il y a The Sales Bible de Jeffrey Gitomer. Donc ça, c'est un livre, c'est pas mal. C'est un livre sur différentes choses pour être un vendeur efficace. Alors moi, je fais pas de vente en direct, donc ça m'a pas aidé plus que ça. Mais clairement, c'est un bon bouquin pour tous ceux qui font de la vente en face à face. Ensuite, on a Bargaining for Advantage. Donc ça, c'est comment négocier à son avantage. C'est aussi un livre qui m'a appris quelques trucs de négociation, mais honnêtement, je m'en sers pas plus que ça. Et enfin, le dernier de ce défi, Serons-nous immortels, un livre extraordinaire qui m'a complètement chamboulé, qui a complètement chamboulé mon approche de la santé. Ce livre, je l'avais lu avant de me lancer dans ce défi, mais je l'ai chroniqué à ce moment-là et j'en parle encore souvent aujourd'hui. Allez, vous pouvez aller voir une vidéo là-dedans et j'en parle aussi dans Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que il y a finalement dans ces 32 livres que j'ai lus et chroniqués, il y en a quelques-uns dont je me rappelle plus du tout. Mais vous voyez que la majorité, alors il y a une majorité de bouquins qui m'ont apporté un truc ou deux dont je me sers encore aujourd'hui. Et il y a quelques livres qui m'ont énormément influencé et sans qui je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Je vous mets au challenge. Vous êtes des rebelles intelligents. Vous êtes des gens qui vous bougez. Lancez-vous un défi de lire un livre par semaine pendant 52 semaines. Et même si vous n'arrivez pas à 52 livres, vous allez quand même lire beaucoup plus de livres que si vous n'étiez pas lancé dans ce défi. Je vous invite à aller voir la liste des 99 livres du Personnel MBA que j'ai fait sur mon blog des livres pour changer de vie. Vous avez toute la liste des livres en anglais, la traduction en français si elle existe et même la chronique si je l'ai réalisée.
Hey ! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier.com. olivier-roland.tv, hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.